Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, pour démarrer donc au sommaire de ce nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, l'hebdo, notre coup de cœur ciné pour commencer avec La femme la plus riche du monde qui sort mercredi au cinéma. À cette occasion, Thierry Cliffat, le réalisateur, Raphaël Personnaz et Mathieu Demy nous rejoignent dans une poignée de secondes. On va avoir le plaisir de dérouler nos coups de cœur télé de la semaine consacrés aux séries quotidiennes avec Plus belle la vie, encore plus belle aujourd'hui à l'honneur, Laurent Kérusoré et Léa François seront nos invités. On parlera de Demain nous appartient également avec Charlie Bousquet. Erika a fait une arrivée tonitruante dans la série. Elle nous parlera évidemment, Charlie, de ce nouveau personnage qu'elle incarne. Et puis en fin d'émission, il a gagné The Voice, la saison 11. Aurélien Vivos part sur les routes de France pour Balavoine, ma bataille. Un spectacle hommage exceptionnel qui va tourner partout, près de chez vous. Aurélien Vivos sera notre invité d'honneur en fin d'émission. Vous l'avez compris, on va encore pas s'ennuyer aujourd'hui. Ensuite, on écoute la télé. On démarre tout de suite avec notre coup de cœur ciné.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film La femme la plus riche du monde, le nouveau film de Thierry Cliffat qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Notre coup de cœur ciné cette semaine, je le disais, j'ai eu la chance de le voir il y a maintenant quelques semaines au Festival d'Angoulême. C'était la première projection. La femme la plus riche du monde est quand même largement inspirée de la vie de Liliane Bettencourt et de toute la guerre des nerfs qui a pu se passer dans cette famille. Mais comment est venue l'idée? À quel moment Thierry t'as voulu adapter un peu cette histoire?
D'abord, je suis quand même un peu éloigné à travers l'écriture de ce scénario, mais l'histoire à l'époque m'a passionné parce qu'elle elle racontait plein de choses. Elle racontait une époque, un monde qui n'existe plus aujourd'hui, un monde qui a disparu, un monde qui s'est quand même construit un peu sur les cendres de la collaboration. Mais plus que ça encore, c'est à partir du moment où j'ai vu que je pourrais en faire une fiction, c'est-à-dire ne pas être là uniquement pour illustrer ce qu'on avait pu lire dans la presse, ce qu'on avait pu entendre dans la radio, voir la télé.
Oui, l'idée c'était pas de faire un biopic, mais de faire une fiction totalement inspirée.
Surtout pas, voilà, et en fait, la solution, elle était de passer par l'intime, parce que on a essayé quand même à chaque fois ces personnages un peu de les caricaturer, et on a pas vraiment creusé en profondeur qui ils étaient et quelles étaient leurs motivations profondes, parce qu'on a raconté, et c'est ça qui m'a donné, je trouvais qu'il y avait une matière romanesque folle, et que ça donnait aussi la possibilité de raconter tout ça aussi par le prisme de la comédie, de la farce, et que si émotion il y avait, je pense qu'il y en a, elle allait surgir pas forcément là où on allait s'attendre qu'elle surgisse.
Il y a quelque chose de fascinant pour le commun des mortels sur ces familles là justement, richissime.
Oui, surtout que c'est des ultra riches, c'est la femme la plus riche du monde, ça c'est incontestable. Mais c'est un monde, c'est la haute bourgeoisie française, catholique, c'est un monde qui a été assez peu raconté en fait dans le cinéma français, parce que c'est un monde qui se cache, où la richesse n'est pas ostentatoire, et c'est un monde où on fait pas d'éclat, il y a pas de scandale, et les secrets on les cache comme on cacherait la poussière sous le tapis, et qu'en fait le personnage de Laurent Lafitte va faire exploser tout ça, va amener le scandale, et chaque personnage à se retrouver face à lui-même, c'est-à-dire qu'il va permettre au personnage de Marianne, joué par Isabelle Huppert, de renaître à la vie, de sauter de son sarcophage, comme elle dit, et permettre au personnage de la fille, Frédéric, joué par Marianne Foïs, de comprendre quelque chose qu'elle n'avait pas compris jusqu'alors, c'est-à-dire donner une identité à ce manque qu'elle ressentait, et ce manque qu'elle ressentait, c'était en fait, les choses, quand on les a pas, on peut ressentir un manque sans savoir fatalement l'identifier, mais là, elle va comprendre en fait que ce qui lui manque, c'était l'amour de cette mère, et tout en découvrant que cette mère, à travers son amitié avec le personnage de Laurent, joué par Laurent, est capable d'aimer, et d'aimer comme elle ne l'a jamais aimé.
On y suit donc le parcours de Marianne, cette femme la plus riche du monde, qui va faire la rencontre de Pierre Alain, un photographe fantasque, on va dire qu'il est sans filtre, je crois qu'on peut dire ça comme ça, et joué par Laurent Lafitte, qui apporte quelque chose de très théâtral aussi dans sa prestation, qui est assez dingue. Un personnage qui n'a aucune limite, je crois qu'on peut dire ça. Et c'est ce qui va peut-être séduire justement le personnage de Marianne, qui va finir par faire passer carrément ce personnage-là, qui a fait éruption dans sa vie, Pierre Alain, devant tout le reste, finalement, en lui donnant de l'argent à foison.
Oui, c'est un provocateur, c'est une sorte d'histrion, c'est quelqu'un qui s'est construit à travers justement ces provocations, le fait de faire réagir les gens qui fréquentent,
de façon très durement même des fois.
Oui, de les faire sortir de leur carcan. Il vient bousculer les conventions et il n'est représentatif de rien d'autre que de lui-même. Il est le fruit à la fois de son milieu, d'une époque. La provocation est son mode d'expression, et sa façon d'exister. Et comme ça marche...
Il en joue,
oui. C'est ce qui lui permet d'accéder à ce qu'il veut.
C'est assez dingue, il y a toute une galerie de personnages assez fous. On va recevoir Raphaël Personnaz qui joue le majordome Jérôme, et puis Mathieu Demy qui joue Jean-Marc Legendre, pressenti pour prendre la suite finalement de la direction de l'entreprise. Mais évidemment, rien ne va se passer comme prévu, autrement ça serait pas drôle, et ça ferait pas un film. Là, ça matche bien, parce qu'on a l'impression que vous connaissez tous depuis déjà plusieurs films, tellement tous les personnages sont bien placés, etc. Thierry, ça te fait quoi? Plus de 20 ans après, t'étais à notre place. Tu rencontrais tous ces acteurs, peut-être pour lesquels t'avais beaucoup d'admiration pour certains. Et aujourd'hui, t'es un des plus grands cinéastes reconnus. On attend chacun de tes films. Aujourd'hui, ça te fait quoi d'être passé de l'autre côté?
C'est une joie immense. Mais j'ai toujours su que c'était ça que je voulais faire avant même de rentrer à studio. Je me souviens, quand je suis rentré à studio, je vous préviens, je ne vais pas rester très longtemps parce que je veux réaliser des films. Sauf que je suis rentré à 21 ans à studio, 22 ans, et à cette époque-là, j'avais pas la maturité et la capacité de faire des films. Et puis je suis resté un peu plus longtemps que ce que j'avais prévu à studio, puis je suis resté une dizaine d'années et j'ai adoré ça. Mais oui, c'est formidable. Évidemment que la chance a joué un rôle, mais après il y a du travail, beaucoup de travail. Il y a deux qualités qui me semblent particulièrement requises quand on décide d'être cinéaste, c'est la résistance et la résilience, parce que on se prend aussi beaucoup de baffes dans la gueule, et en fait l'envie de faire des films, elle est sans cesse éprouvée par les difficultés qu'on rencontre pour faire ces films. Donc je pense pas qu'on est là uniquement par hasard ou uniquement par chance, parce que voilà, cette capacité à résister à tout ça, elle est au cœur même du processus créatif.
En tout cas, nous, ça fait 8 ans qu'on t'accompagne sur les films. C'est le 3e sur lequel on t'accompagne. On s'était connus sur tous nos séparés. Et c'est en tout cas un grand plaisir de t'avoir avec nous. J'espère que le prochain mettra pas 6 ans à arriver.
Ah bah non, bah là, t'as vu.
Là, il y a eu que 2 ans.
Non. J'ai déjà fini d'écrire. Ce sera un film sur Jean Gabin, en fait, avec Benoît Magimel. Mais qui se concentre sur une partie assez brève de sa vie. Ce sera pas un film sur le cinéma, ce sera pas un film sur l'acteur, mais plutôt sur l'homme et sur l'homme qui s'est engagé pendant la guerre et qui a été un héros, mais sans jamais savoir qu'il était, sans jamais se considérer comme se vivre comme un héros. Donc ça va être un film assez épique, romanesque, une grande fresque, puisque ce sera son engagement, ce sera Hollywood pendant la guerre quand il est parti, ce sera sa rencontre évidemment fusionnelle avec Marlène Dietrich. Donc on en reparlera.
Exactement, je mets 304.
Exactement.
Thierry Cliffat, la femme la plus riche du monde, aux manettes de ce film qu'on découvrira donc mercredi dans les salles. On reçoit dans un instant Raphaël Personnaz et Mathieu Demy. On va écouter la bande-annonce juste temps de récupérer avec nous. Et on se dit à très bientôt en tout cas Thierry, merci et à très vite.
À très bientôt et merci de l'accueil comme à chaque fois. C'est très chaleureux, ça fait plaisir de parler de cinéma.
Vous êtes la femme la plus riche du monde, ça vous évoque quoi?
Riche, le mot n'est pas très joli. Fortuné, c'est mieux.
Jérôme, avec ce bouquet, je ne vois pas Guy, si vous pouviez enlever tout ça. On se croirait à l'aéroport de Novi.
Je veux que cette photographie raconte parfaitement la femme que vous êtes.
C'est qui ce photographe?
Pierre Alain-Fantin.
Ce que je veux voir, c'est une héroïne.
Il a une réputation épouvantable.
Je ne photographie pas les gens, je les emporte.
Et voilà.
Ça me gêne.
Mais arrête de glapir, Guy.
Oui, c'est exact, vous glapissez. Je penserai à me faire le plein. Ce n'est pas mon travail.
Oh.
Ça vous plaît?
Ah, c'est magnifique.
Allez, virez-moi cette croûtasse. Vous n'avez rien à faire là, la bonicherie. Dehors!
Allez, raus!
Voilà, ça y est, ils sont arrivés avec nous en tout cas. J'espère que la bande-annonce vous a donné envie d'aller voir le film. On rappelle que La femme la plus riche du monde, c'est donc mercredi dans les salles. Raphaël Personnaz nous a rejoint. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Heureux de te retrouver dans l'émission. Mathieu Demy qui est avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également. Alors, on va parler du majordome évidemment. Jérôme, si je me souviens bien.
Absolument.
Qui envoie de toutes les couleurs avec Pierre-Alain quand même.
Qui se fait humilier en permanence par ce personnage que joue Laurent Lafitte et qui doit se taire, qui doit prendre sur lui, enfin jusqu'au moment où il va un petit peu évoluer, mais c'était un rôle extrêmement intéressant à faire, extrêmement bien écrit comme tout le scénario, avec des personnages hauts en couleur et puis qui sont pas forcément là où on les attend, des personnages qu'on aime détester et qui nous émeuvent aussi. Et c'était surtout un scénario ultra très drôle, mordant. Et c'est un humour qu'on aime bien, surtout sur des milieux comme cela.
On va voir qu'il a un rôle clé d'ailleurs, hein, à un moment donné, parce que même si ce personnage de Jérôme a quelque chose de très lisse au départ, avec son petit blond vénitien, etc., on va s'apercevoir que finalement, ce côté lisse va peu à peu dévoiler aussi ce dévouement sans faille qu'il a envers Marianne et sa famille, finalement.
Il y a un vrai amour pour eux, une vraie reconnaissance, ouais. C'est quelqu'un qui, on sait qu'il est passé par l'armée, on sait pas quel est exactement son milieu social, mais il est clairement pas du même que ses employeurs, mais il y a un vrai attachement, une vraie reconnaissance, il a envie de les protéger, mais pas que, on sent aussi qu'il est parfois un peu trouble, qu'il joue sans doute avec les codes de ce milieu, qu'il en profite d'une certaine manière, donc c'était ça qui était intéressant à développer tout au long du tournage.
Alors Mathieu, Jean-Marc, c'est le gendre, le mari de Frédéric et le gendre de Marianne, qui est un peu pressenti, un peu pour être le repreneur idéal de la grande entreprise, évidemment. Et malgré tout, c'est toujours un personnage qui est un peu justement dans cette ombre-là et qui va peu à peu aussi s'affirmer. Il y a quelque chose qui, petit à petit, dans cette galerie de personnages que vous jouez, Mathieu, qui, au fur et à mesure du temps, s'émancipe.
Oui, alors au départ, il n'est pas vraiment pressenti, parce que c'est vraiment une affaire familiale. Au départ, il est là, il accompagne Frédéric, qui est la fille mal aimée. Il essaye de faire bloc avec elle. Et puis, effectivement, il va être propulsé un peu à la tête de la boîte, mais pour des raisons plus politiques qu'autre chose, pour les laver des soupçons d'antisémitisme et ce genre de choses. Mais c'est effectivement un personnage assez austère qui accompagne Frédéric dans ce qui va devenir un combat contre sa propre famille, quoi.
Vous avez découvert des codes, vous avez découvert des choses de ce milieu-là, tous les deux, en lisant le scénario, en s'appropriant un peu vos rôles.
Oui, il faut toujours mettre des chaussures marron quand on est à la campagne.
C'est ça que tu as découvert ?
Chaussures noires en ville, chaussures marron à la campagne.
D'accord, ça fait partie des codes.
Et ceinture assortie.
Ah bah oui, évidemment. Raphaël ?
Ouais, je savais pas ça, dis donc. Je sais pas exactement, mais en tout cas, tout ce qu'il y a eu récemment sur des codes d'ultra riche. Il y a eu la série Succession, il y a eu les livres aussi là-dessus. Je crois que nous a permis au public de rentrer dans des univers qu'on ne connaît pas et d'appréhender les codes. Donc peut-être que tous les codes m'étaient pas totalement étrangers. Mais en même temps, ça joue aussi parfois avec les codes. Le majordome, il est pas totalement dans les codes du majordome quand il a sa petite gourmette apparente, son tatouage. Il y a parfois des incartades. En tout cas, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est des ultra riches qui ne veulent pas le montrer ou très peu. Ils sont pas du tout bling bling, hein. On est loin de ça, sauf de temps en temps ils prennent un petit jet, voilà, quand il faut. Et restons simples. Mais sinon, il y a quand même pas la volonté de montrer.
Il y a quelque chose de très, une espèce de pudeur, de non-dit. Il y a beaucoup de choses autour, effectivement, de ces milieux-là. Quand Thierry Cliffa vous appelle pour vous proposer un rôle dans un de ses films, on se dit quoi, Mathieu?
On dit merci, Thierry. Merci, parce que Thierry, c'est un amoureux des acteurs. C'est quelqu'un de très généreux que nous, on a connu. Je parle aussi pour Raphaël, qui travaille aussi depuis longtemps. On l'a connu quand il était à Studio Magazine, quand il était journaliste. Et c'est toujours, c'est un plaisir de retrouver Thierry.
C'est vrai, générosité, c'est le mot qui revient souvent le concernant. Raphaël ?
C'est un amoureux du cinéma, de toute son histoire, des actrices, des acteurs, il le montre en permanence. Et surtout, c'est quelqu'un qui aime organiser des dîners, faire que les gens se sentent bien ensemble. Et on sent exactement ça sur le plateau. Il y a cette envie de partager une même chose, que ce moment soit convivial, généreux, sans s'empêcher de ricaner, de rigoler. Et en même temps, il y a quelque chose d'extrêmement amical chez lui.
Il y a une vraie évolution dans le personnage de Jérôme. On sait que les films sont tournés souvent dans le désordre. Il faut aller chercher justement chaque petite évolution en fonction de l'ordre dans lequel on tourne les scènes. Comment on s'y prend quand on est acteur? Comment on le travaille, ça, Raphaël?
J'ai souvent l'impression, sur ces histoires de chronologie du tournage, enfin, on essaye d'étudier quand même énormément le script en amont. Donc tout ça, c'est des choses qui sont rentrées inconsciemment en vous. Et justement, c'est là où le réalisateur intervient pour vous rappeler quelques éléments si on est un peu perdu de temps en temps. Donc il faut s'appuyer sur lui en permanence et sur le reste de mémoire qui nous reste.
C'était quoi la scène la plus difficile peut-être, ou la plus facile?
Il y a la première scène qu'on ait tournée, où il y avait tous les personnages autour d'une table en Grèce. Moi, je servais juste du champagne, donc je devais me taire et servir les autres. Et j'ai vu tous ces acteurs se mettre comme ça en état de marche, et j'ai vu tous les caractères qui commençaient à s'installer. Ton personnage, celui de Laurent, celui d'Isabelle, tout ça existait très très vite. Quand vous voyez ça, ça met une petite pression. En même temps, on se dit qu'on a envie d'en faire partie, d'aborder les scènes de dialogue avec tous ces acteurs. Donc moi, j'ai un grand souvenir de ce premier jour.
C'est souvent les scènes un peu collégiales, comme ça, qu'on se souvient souvent. Mathieu, même chose, dans l'évolution du personnage de Jean-Marc, comment on s'y prend?
Sur un scénario comme ça, qui était tellement travaillé, tellement bien ficelé, c'est une affaire qui est très complexe. Ils ont dû synthétiser énormément de choses, en fait. Toute cette histoire, toutes les enquêtes, tous les documents d'enquête. Je sais que Thierry, Jacques et Cédric ont dû procéder à un travail, pas de simplification, mais vraiment de prendre la quintessence de cette histoire. Donc quand, si vous voulez, l'aboutissement de tout ça, c'est un scénario qui est tellement précis, il faut juste jouer les situations, il faut essayer d'être le plus vrai, le plus intense possible dans le moment. Mais je crois qu'on peut, comme acteur, vraiment se reposer sur l'évolution de l'histoire telle qu'elle est écrite, quoi. Il n'y a pas d'autre chose à faire quand c'est un travail de cette qualité, si vous voulez, il n'y a rien d'autre à faire.
La scène qui a été peut-être la plus drôle à voir jouer ou à jouer, ou la plus difficile, Mathieu, s'il y en a une?
Il y a un petit moment qui moi m'a fait rigoler, c'est quand Jean-Marc retrouve Marianne près du distributeur de boissons dans le hall de la boîte, et que Marianne comprend pas qu'il faut mettre une pièce pour avoir un fanta.
On voit bien qu'elle l'a jamais utilisé, quoi, la machine.
Mais elle l'a jamais utilisé, elle a peut-être même jamais touché de pièce de monnaie de sa vie. Il est obligé de lui dire: mais Marianne, il faut mettre une pièce pour avoir votre boisson. Elle sait pas
comment. C'est lui qui sort son porte-monnaie, du coup.
Et c'est lui qui lui met les deux francs 50 pour trouver son fanta. Ça, j'ai trouvé que c'était assez drôle, parce que ça raconte quoi, le décalage total de tout ce petit monde. Et c'est...
Cette scène anodine, en fait, parle beaucoup avec humour, justement, du décalage. Oui, ça, c'est sûr, de ce monde.
Ouais, ça, c'était marrant.
Vos projets à tous les deux, fin 2025, début 2026, qu'est-ce qui vous attend?
J'ai écrit un long métrage que je vais réaliser prochainement, et puis d'autres projets d'acting qui se préparent. Ouais.
Raphaël?
Moi, j'ai tourné un film de Rachel Lang avec Eye Idara et Joséphine Japy sur la DGSE, donc un univers un peu secret aussi. Et je pense qu'il sortira en janvier, il me semble, quelque chose comme ça.
Voilà. Il y a des projets télé aussi ou pas?
Il y a des choses qui arrivent, ouais.
À voir bientôt. En tout cas, ce sera l'occasion pour vous de revenir. En tout cas, dans Chute, on écoute la télé, la femme la plus riche du monde. On rappelle que ça sort mercredi au cinéma. Raphaël, Mathieu, merci d'avoir passé ces quelques minutes en notre compagnie. Et puis, on vous souhaite tout plein de bonnes choses pour dans 2 jours, hein, pour la sortie du film. Voilà, vous vous sentez comment là?
Bah, fébrile, on a envie que...
Ça plaise?
Ouais, on a envie que ça plaise parce que je pense que le film est quand même ouvert, drôle, grinçant, mordant. Je pense qu'on en sort assez heureux.
C'est bien résumé.
Pas mieux.
Merci à tous les deux. On se requitte avec un extrait.
Grâce à vous, c'est comme si je revivais.
Ah, les voilà.
Elle est là, ma petite chérie.
Vous avez toujours été comme ça?
Je vais vous aider à déverrouiller tout ce qui est fermé en vous.
C'est vous qui avez la clé.
Je vais vous faire un contrat de 10 ans pour vos créations. 2 millions par an, ça vous paraît une somme raisonnable?
Il est hors de question que je passe une seconde de plus avec ce pique-assiette. Ce matin, elle avait mal au dos.
Bah, on tourne en rond.
Le petit coucher de la reine.
Mais t'as pas dormi là?
Avec Pierre-Alain, je m'amuse. On vole, on frise.
Allez, ne bougez pas, Laurent Kérusoré, Léa François, Charlie Bousquet et Aurélien Vivos débarquent dans Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas, Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite, le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Tu m'as dit nous c'est différent, ouais. Nous c'est pas la même chose, nous c'est pas comme les gens. Oh, oh nous c'est important, ouais. Nous c'est pas comme les autres. Nous sert du temps. T'es entré dans ma vie comme on entre dans un saloon. Ça s'est passé très vite quand tu m'as coupé le souffle. Je n'ai plus vu la foule, seulement tes grands yeux. J'ai bousculé les clowns et les cracheurs de feu. Pour approcher ton cou, pour te voir un peu mieux. Tu m'as dit est-ce que c'est fou d'aimer jouer avec le feu. Je n'ai rien répondu, j'avais avalé ma voix. Tu m'as dit ça ne fait rien, j'ai vu tout ce que j'avais à voir. Tu m'as dit nous c'est différent, ouais. C'est pas la même chose, non. Nous c'est pas comme les gens. Oh, oh nous c'est important, ouais. Nous c'est pas comme les autres. Nous sert du temps. Parle-moi de ton job, quels sont tes passe-temps? On a balayé tout ça, on a tué l'adulte dans l'enfant. Pour nous éteindre à jamais, il faut une balle en argent. Ce soir la ville est pleine, mais elle penche énormément. Je n'ai pas d'alibi, la nuit où ma vie est tombée raide, du mauvais côté du lit. Autant d'amants que j'aurais d'ennemis, autant d'aimants qui t'aiment à demi. Nous c'est différent, ouais. Nous c'est pas la même chose, non. Nous c'est pas comme les gens. Oh, oh nous c'est différent, ouais. Nous c'est pas la même chose, non. Nous c'est pas comme les gens. Oh, oh nous c'est important, ouais. Nous c'est pas comme les autres. Nous c'est hors du temps.
On écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Plus belle la vie, encore plus belle, votre série préférée. Vous suivez tellement nombreux tous les jours à 14h sur TF1 et sur TF1+. C'est l'un des héros emblématiques de la série, mais depuis la première heure, il est là avec nous, Laurent Kérusoré. Bonjour mon cher Laurent.
Bonjour à vous.
Merci d'être là, Thomas Marcy is back. Depuis maintenant plus de 2 ans, c'est un rêve éveillé que vous êtes tous en train de vivre avec un retour inespéré et en plus avec un succès, mais démentiel.
Alors, évidemment, on est content du succès. Vous savez,
le succès, c'est le problème des producteurs, c'est le problème des annonceurs, mais c'est pas notre problème à nous. Notre problème à nous, c'est d'arriver à l'heure, savoir notre texte et de travailler avec des camarades exceptionnels. Évidemment, quand ça marche, on est très content.
C'est grâce à votre travail si ça fonctionne comme ça aussi.
Alors je pense que c'est grâce aux gens qui suivent Plus belle la vie depuis 20 ans, qui ont grandi avec Plus belle la vie. Aujourd'hui dans la rue, j'entends des jeunes adolescents ou des jeunes adultes qui me disent « j'ai grandi avec vous ». Et ça, c'est la plus belle des récompenses.
Moi, c'est hyper émouvant ça.
Bah, je préfère avoir ces phrases dans la rue, je préfère être populaire que de recevoir un prix dans un théâtre avec des gens qui se mentent tous. C'est un bonheur de leur parler. Leur parler comme on est, comme ils sont. De faire des photos avec eux. Enfin, vous me connaissez, moi je suis pas bégueule. Voilà, je parle aux gens comme ils me parlent et moi c'est un bonheur tout ça. Mais c'est grâce à eux. Hein.
Alors, nouveau décor évidemment, puisque le bar Marcy, bah, tu l'as réouvert. C'était début janvier 2024. Et puis c'est vrai que bah, ce bar, il y a quand même le zinc qui est encore là, qui est le souvenir un peu de l'ancienne série. Mais ce zinc a bien failli disparaître quand même dernièrement avec cette course et cette chasse au trésor qu'on a vécu, en tout cas cet été, qui était drôle.
Ce zinc, il fait partie de l'histoire de Plus belle. Dans l'histoire du nouvel opus sur TF1, quelques semaines avant, la production m'a appelé pour me dire « Laurent, on voudrait voir avec toi les décors et tout ça ». Ils m'ont un peu utilisé, mais ils m'ont utilisé avec bienveillance. C'est que je ne savais pas que le zinc était encore là. Et il y a des images qui ont été filmées. Et quand je rentre et je vois le zinc, je me mets à pleurer. Mais je me remets à pleurer pour une chose. Parce que je pense à ces 18 années de bonheur. Je pense à mon ami Michel.
On pense tous à Michel.
Et je pense à ce personnage Roland. Alors, si je parlais de Roland, je pense que si Michel était encore là, il m'engueulerait. Parce que c'était Michel pour moi. Mais ça me rappelle tellement de choses, tellement de bons souvenirs avec Laetitia, avec Sylvie, avec Anne. Des souvenirs extraordinaires de 18 ans. Et aujourd'hui, qui peut dire « j'ai 20 ans de souvenirs à la télé ».
C'est vrai ça. Ça c'est dingue. Une longévité pareille, c'est totalement dingue.
Et je peux dire une chose, sans être larmoyant, sans être dans la nostalgie idiote, j'allais dire, c'est que tous les matins, quand je rentre au Missal, je pense à Michel. Et je pense à Marouane.
C'est deux personnes à qui on pense très fort, très souvent, je dois te dire.
En plus, c'est inné, enfin, ça se fait comme ça, c'est juste tout ça. Ils ont pris des décisions dans leur vie, c'est leur décision. Mais ils sont dans mon cœur, ils sont dans nos cœurs, ils sont dans le cœur des gens qui suivent Plus belle la vie. Et je pense que justement, c'est le côté très intéressant de Plus belle la vie, c'est que les gens qui nous regardent depuis 20 ans, ils savent exactement ce qu'on pense et qui on est. Il y a un ressenti extraordinaire. C'est bête ce que je dis, mais on est liés. C'est pas qu'une question d'animat, c'est pas qu'une question de zapper avec ce fameux objet où on peut passer d'une chaîne à l'autre. Il y a un truc intéressant entre eux et nous. Il y a quelque chose qui est viscéral, et sans se le nommer, sans dire les choses. Il y a quelque chose qui se passe. Ils savent qu'on s'entend bien. Tout à l'heure, j'étais à table et on parlait des premiers rôles, machin, et moi je dis une chose, et pourtant je joue Thomas Marcy, le premier rôle, c'est nous. C'est pas un tel, c'est pas un tel.
C'est choral.
Le premier rôle, c'est nous tous. C'est ça le premier rôle. Et le premier rôle, c'est Plus belle la vie, encore plus belle. Voilà le premier rôle.
Tu sais qu'on a soutenu la série jusqu'à sa dernière goutte, hein, c'est le cas de le dire. On a été là vraiment jusqu'au bout. On a vu des gens tellement malheureux. Et on a vu des gens tellement heureux derrière de ce retour. Et j'imagine votre bonheur à tous quand au mois de mai, vous avez été contacté 6-7 mois après l'arrêt du tournage. Et que vous avez été contacté pour cette reprise. C'est un bonheur.
Alors, je peux pas tout dire, mais je le savais bien avant. Je n'avais pas le droit de le dire.
Bah oui, mais c'est normal.
Ce qui était compliqué, c'était de voir mes camarades à dîner et de rien dire.
On le savait, je crois, tous au fond de nous. Ça pouvait pas s'arrêter comme ça.
Moi, je me suis pas posé la question comme ça. C'est-à-dire que le jour où ça s'est arrêté, d'ailleurs, tout le monde pensait que Laurent est fragile, émotionnellement, il est fragile, il faudra faire attention à lui, le producteur m'appelait et tout ça. Et bizarrement, en fait, je suis celui qui l'a le mieux pris. Enfin, peut-être pas le seul, hein. Il y en a d'autres qui l'ont bien pris. C'est que pour moi, c'était terminé. Je suis un émotif, je suis sur le moment présent. Et si on me dit c'est terminé, c'est terminé. Donc moi, je venais de faire construire une maison, j'étais encore dans les cartons. Et au lieu de me dire j'ai plus de boulot, je me suis dit tiens, c'est super, je vais avoir une année pour déballer mes cartons. Moi, c'est comme ça que je réagis. Et quand on m'a appelé en milieu d'année pour me dire Laurent, est-ce que tu accepterais de revenir dans Plus belle la vie? Le producteur a été même un peu déçu de ma réponse. Parce que je lui ai dit bah ouais. Il me dit mais tu veux pas y réfléchir? Bah non. Il était interpellé par cette facilité de réponse. Il pensait que j'allais appeler mon agent, mes amis, en disant est-ce que tu prends la bonne décision? Non, bah ouais. Mais juste bah ouais. J'ai pas dit oh ouais, ouais. J'ai dit bah ouais.
Ça a été tellement drôle cette chasse au trésor là. Ça a beaucoup ri quand même.
Il y a Léa François qui est juste derrière qui ricane parce qu'on s'est fendu la gueule. C'était extraordinaire. Et j'en parle et je crois que j'ai le droit. On a même fait des impros avec Léa où à un moment, Thomas est au bar, il extrapole, il parle à la bibliothécaire, et Léa rajoute, et ça, il faut le dire aux fans, il y a une scène où elle dit « Qui s'en fout ?» Et tout le monde lève la main, ça n'a pas été coupé au montage, et ça, c'est de l'impro. C'était un bonheur. J'ai même joué un peu les enfants capricieux. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit à la productrice, si je n'ai pas une intrigue comme ça par an, je me barre.
C'est bien, petit caprice, ça au moins, il faut.
Et j'ai appris hier que j'allais la voir.
Et ben voilà, tu vois comme quoi. Allez, Léa François va nous rejoindre dans un tout petit instant. On va écouter un petit extrait. Plus belle la vie, encore plus belle. Et puis on te souhaite plein de belles choses, Laurent, tu le sais. T'es le bienvenu quand tu veux.
Je suis le premier à me les souhaiter.
Je ne veux plus jamais vous revoir dans ce cabinet.
Je reviens pas d'avoir fait de la merde comme ça.
Et ben maintenant, tu vas prouver que tu peux devenir avocate légalement.
En repassant le barreau, tu veux dire ?
Je ne minimise pas ce que vous avez vécu, bien sûr. Mais ça aurait pu être bien pire.
J'ai besoin de comprendre ce qui est arrivé à Ophélie.
Elle a été cruelle, lâche. C'est à cause d'elle qu'on m'a coupé l'orteil. C'est un monstre.
C'est vrai qu'un mec t'a menacé ?
Elle est lâche !
C'était plutôt une malédiction, si tu veux tout savoir.
Avant la Toussaint, tu vas mourir.
Mais pas cru, j'espère.
T'as pas de parole en l'air ? Une menace dès qu'elle est prononcée, elle existe.
Laura abrite l'âme dans le défunt.
Une vieille croyance bretonne, ça.
Ça va pas ?
On va trop loin. Depuis que ça s'est passé, regarde, je dors plus, je mange plus. Tu expliques comment ça ?
Laura est dans l'une de ses poubelles ?
Ouais,
je vais le récupérer, c'est une pièce à conviction.
Voilà, Léa François nous rejoint. Bonjour Léa.
Bonjour.
Merci d'être là. Quel bonheur de vous avoir tous les deux avec Laurent pour cette émission. Plus belle la vie, encore plus belle. On disait avec Laurent, un retour inespéré, un bonheur ultime pour les fans évidemment. Tu sais, on a été là jusqu'à la dernière goutte, c'est le cas de le dire, pour vous soutenir à la fin. Et puis bah, ce début, on est là aussi évidemment. Et pour vous, j'imagine le bonheur que ça a été de vous voir tous revenir.
Ouais, bien sûr. Moi, il m'a fallu un petit temps pour retrouver un peu mes marques, etc.
On peut comprendre pourquoi aussi.
Voilà, la première année était vraiment pas évidente, donc c'était pas que non plus une euphorie. Enfin, je m'amuse. J'ai découvert aussi des nouveaux partenaires que j'adore. J'ai retrouvé mes anciens chouchous. On a beaucoup de chance et on remercie aussi tant le public qui nous a vraiment soutenus jusqu'au bout, pour la fin, pour le début, le lancement de cette nouvelle aventure. C'est quand même une histoire incroyable.
Ouais, c'est complètement fou. Il y a vraiment un lien très spécial aujourd'hui qui vous lie au public.
Ouais, complètement. On reçoit toujours des tonnes de témoignages, voilà, parce que la série correspond forcément toujours à des tranches de vie de telle ou telle personne. Donc non, c'est beaucoup d'émotions.
Il est loin l'arrivée de la petite Barbara maintenant.
Ah bah ouais, de plus en plus, hein. Chaque année, il est toujours un peu plus loin. Et à la fois, c'est trop cool. Moi, j'adore pouvoir traiter et m'occuper de ce personnage comme ça sur des années. Enfin, je pense que ça ne m'arrivera qu'une fois dans ma vie. C'est incroyable, en fait. On peut apporter tellement de couches. On sait que, peu importe ce qu'on va dire, les spectateurs vont comprendre cette référence qu'on a fait à cette intrigue d'il y a 4 ans. Enfin, c'est vraiment très plaisant, quoi. Ça nourrit notre perso. Et du coup, il est très, très riche. Et pour nous, c'est très inspirant.
Alors, il y a eu cette intrigue évidemment de fin d'été avec cette chasse au trésor qui nous a fait découvrir quand même Barbara très espiègle aussi.
Oui, elle l'est. Moi, j'adore quand on me met un peu dans ce registre de comédie, même si c'était pas le truc de base, parce qu'on avait quand même un bon petit suspense sur cette intrigue du magot. Mais c'est vrai qu'on y a rajouté quand même pas mal de touches de comédie, puis surtout, on s'est marré à tourner tous ensemble. Donc, c'était vraiment une trop chouette intrigue, quoi. On en veut une comme ça tous les ans.
C'est ce qu'il disait. Alors, les mois qui arrivent, tu continues à me tourner un petit peu pour l'instant.
Oui, je suis en tournée de théâtre avec une pièce qui s'appelle « Et si on en parlait ?». Une pièce d'Astrid Veillon, on est en tournée jusqu'à la fin du mois de décembre, un peu partout en France.
Donc ça te laisse le temps de faire un petit peu d'autres choses aussi, d'autres projets.
Ouais, exactement. Et puis après, je continue les tournages aussi. Je suis en tournage d'une grosse intrigue aussi, de Plus belle la vie, que vous découvrirez prochainement. Voilà, sur vos écrans.
Je peux pas loin des fêtes. Pas loin des fêtes, ou plutôt 2026.
Non, avant les fêtes.
Novembre-décembre, on va avoir du Barbara alors.
Et, ah oui, vous allez en avoir, oui. Et du Louis aussi, si je peux lâcher cette petite information.
Ah bah oui, c'est vrai que là, c'est une nouvelle histoire d'amour en plus pour Barbara maintenant.
Ouais, complètement, mais leur couple va subir...
Quelques remous.
Ouais, quelques remous, voilà, on peut dire ça comme ça, c'est bien trouvé.
Bah, faut dire qu'il a un passé quand même, Louis, pas très fréquentable.
On peut pas non plus attendre à regarder des films devant la télé tous les soirs, non, il y a pas mal de petits rebondissements, effectivement.
Et est-ce que ces démons pourraient revenir ? C'est qu'on verra en tout cas dans la suite de la série, comment ça fera vaciller le couple Barbara-Louis, c'est ce qu'on verra aussi bien sûr dans les futurs épisodes. Alors du théâtre, tu disais, est-ce que ça t'a laissé aussi du temps pour faire d'autres projets télé ? Est-ce qu'il y a des unitaires peut-être qui nous attendent avec toi ou d'autres séries ?
J'espère. J'espère, en tout cas, là je viens de faire 2 années où j'étais déjà bien présente sur Plus belle la vie et où j'avais 2 pièces de théâtre en même temps qui se sont chevauchées, donc je vous avoue que ça me laissait pas beaucoup de place pour faire autre chose. Mais là ça se calme, voilà, je vais lever un petit peu le pied côté théâtre pour pouvoir justement
consacré aussi à d'autres choses.
Ouais, ouais, complètement.
Il y a des choses qui te tenteraient d'autres aussi, la réalisation par exemple ou l'écriture.
J'y viendrai peut-être un moment. Pour l'instant, j'ai trop envie de jouer.
Bon, mais écoute, t'as bien raison. Continue à jouer, continue à nous émerveiller comme ça, du lundi au vendredi à 14h sur TF1. Plus belle la vie, encore plus belle. Et puis l'occasion de vous avoir tous les deux. Voilà, je dédie ce moment, comme on l'a dit avec Laurent et quelques instants, à Michel et Marouane qui nous manquent cruellement tous. Merci beaucoup. À très vite.
Merci beaucoup. À très vite.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Demain nous appartient. C'est un des nouveaux visages de cette rentrée, plein de fraîcheur. On est heureux de l'avoir. Charlie Bousquet, notre invité. Bonjour Charlie.
Bonjour.
Merci d'être là. C'est Erika dans cette série. Un rôle frais, une première scène, on va dire, qui a mis tout de suite les pieds dans le plat. Puisqu'on découvre tout de suite, eh bien, que avec Bart, il y a une petite histoire qui est en train de démarrer. Poste de proviseur pour cette rentrée, ça commence par un séisme. Bref, c'est pas une tempête, Erika, là, ce coup-là, c'est vraiment une tornade.
Exactement, exactement, la tornade Erika, ça sonne bien d'ailleurs.
C'est pas mal, hein ?
Ouais, ouais. Mais en même temps, pour une fois, parce qu'on se connaît depuis longtemps et tu m'as vu dans plein de rôles, et là, Erika, oui, c'est une tornade, mais sympathique, avec de l'humour et en même temps, qui prend les choses en main, c'est une femme forte, libre aussi. Et sa liberté parfois va lui jouer des tours et rendre sa vie un peu compliquée, comme par exemple effectivement tomber amoureuse d'un homme de 20 ans de moins quand on a un fils quasiment du même âge. Ça forcément, ça passe pas toujours.
Ça va pas être triste tout ça.
Exactement, ça va être un peu conflictuel avec mon fils, mais ce qui est chouette, c'est que même quand c'est conflictuel avec Marceau, on sent quand même beaucoup d'amour. C'est une joute verbale, c'est leur façon communiquer. Ils se charrient, parce que c'est ça le mot, ils se titillent et en même temps ils sont très pudiques, mais ils s'aiment vraiment, quoi.
Ah, c'est vrai qu'il y avait un petit peu le rôle un peu lisse justement de la banquière dans Un si grand soleil. Qu'est-ce qui t'a fait en tout cas dire oui à une nouvelle quotidienne? Est-ce que c'est justement la fraîcheur du personnage? Est-ce que c'est justement sa joie de vivre, sa bonne humeur qui transpire à l'écran?
Bah effectivement, là on va pas se mentir, quand ils m'ont proposé Erika avec cette couleur, cette énergie, ce franc-parler et puis cette liberté, moi voilà, j'ai dit banco, c'est un rôle que je rêvais d'interpréter. Et on me l'offre sur un plateau. Alors si on devait un peu comparer avec un personnage déjà existant, c'est Sam.
Ouais, exactement. Natasha Linninger, ouais.
Exactement. Et moi, pour avoir travaillé avec Natasha sur Sam, je faisais la concurrente encore une fois. Et je disais à Natasha, mais quelle chance tu as d'avoir un rôle aussi.
Cette liberté de ton.
Cette liberté de ton et tout. Et là, pouf, TF1 m'offre mon Sam à moi, quoi. Donc, forcément, je ne pouvais pas refuser. Et c'est un plaisir d'interpréter Erika, et en plus j'ai l'impression que voilà, je vais un peu surprendre les spectateurs qui ont effectivement plus l'habitude de me voir dans l'autorité, dans des rôles plus austères.
Ouais, moi j'ai l'impression que Erika, c'est un peu au niveau de ses élèves, quand même malgré tout, une main de fer dans un gant de velours. Parce qu'elle y va quand même tout en douceur, toujours avec un sourire, mais elle arrive à se faire écouter de ses élèves quand même, ça se voit, ça s'en sent.
Ah mais elle a une autorité...
Avec une façon bien à elle des fois.
Voilà, mais effectivement, elle a une vraie autorité, mais étant donné qu'elle a ce poids de la proviseur, elle n'a pas besoin d'en faire plus, quoi. Et du coup, effectivement, elle obtient tout. Elle obtient de ses élèves qui retapent le lycée et qui prennent le balai et voilà, sans que personne ne rechigne. Elle obtient plein de choses. Effectivement, ça apporte aussi un peu de comédie, ce qui est pas...
Ce qui est pas néfaste.
Voilà, c'est bien de varier les plaisirs entre le drame et la comédie. Voilà, donc...
Ça guérit au rythme de la quotidienne, il faut dire quand même aussi.
Bah, ça va faire plus de 30 ans maintenant que je fais ce métier. Effectivement, j'ai enchaîné pas mal de
séries. Projet où il fallait tourner vite, tu sais faire.
Exactement, je pense que c'est ma petite spécialité. Mais je m'en lasse pas. Et puis réellement, le plaisir des séries comme ça, c'est de porter son personnage et de l'emmener comme ça. Et on découvre à chaque fois une nouvelle facette. On n'a pas le temps, on ne se lasse pas, puisqu'il y a toujours des rebondissements, une facette qu'on découvre. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne décroche pas.
Tu te rends compte quand même que beaucoup de séries dans lesquelles tu as joué auront été cultes, toutes? À commencer peut-être par la première, évidemment, Sous le soleil, évidemment. Mais après, il y a eu Caméra Café avec Nancy, évidemment. Culte aussi, Ainsi Grand Soleil s'annonce culte. Demain nous appartient, n'en parlons pas. Par sa longévité, et en train de battre tous les records maintenant aussi, avec Plus belle la vie. Et franchement, dans chaque projet où tu t'es inscrit, c'est culte. Tu portes chance, peut-être.
Eh ben, j'adore l'idée. Véhicule cette image de moi avec joie. Alors, je sais pas si je porte chance, mais moi, j'ai de la chance de faire partie de ces beaux projets.
Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles tu as joué, là, et qu'on va te découvrir aussi bientôt?
Alors, bah, puisqu'on parlait de Caméra Café, oui, on m'attend qu'un tournage d'un nouveau unitaire.
Caméra Café?
Caméra Café.
Mais ça, c'est le Graal.
Ah, bah, ça, c'est le petit cadeau de Noël, je pense, d'M6, pour les inconditionnels de Caméra Café. Et ça va être très drôle, parce que c'est Bruno et Yvan, Jean-Claude Convenant et Hervé, qui vont être à la chasse à leur point retraite. Voilà.
Ça va donner tout ça. Ça va donner, bah oui, hein, effectivement, il va être temps pour ces deux-là.
Et puis aussi, là, au théâtre, dans une pièce qui s'appelle Paillettes, avec Philippe Carroix, que vous connaissez, bien sûr, Denis Maréchal et Stéphanie Punster-Crump. Et voilà, une comédie sarcastique et grinçante qui va être en tournée dans toute la France.
On viendra te voir.
Ah bah, avec joie.
Merci beaucoup, Charlie, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et puis, on te dit à très vite, en tout cas.
Merci à vous pour votre fidélité.
À bientôt.
À bientôt.
Précédemment.
Docteur Denier,
comment ça va?
Très bien, et vous?
Il est vraiment médecin?
Oui, et très réputé, à l'hôpital Saint-Clair.
Je suis désolée encore de vous avoir embarré hier.
Vu le contexte, je comprends. Un type en sueur, comme ça, qui débarque et...
Il soufflait comme un bœuf.
Vous raccompagnez à l'accueil?
Oui, bien sûr.
Certains d'entre vous ont découvert une maison abandonnée dans les environs. Cette maison est une propriété privée. Donc, en aucun cas et sous aucun prétexte, vous êtes autorisé à y mettre les pieds.
Ce qui serait bien, c'est que tu fasses le guet, là, pendant que nous, on jette un coup d'œil.
C'est bon, là, t'es content?
Oh, putain!
Mec, t'es chiant avec tes blagues à deux balles, là.
Oh, je rigole pas, je vais me faire mordre.
Allez, dans quelques instants, Aurélien Vivos sera notre invité exceptionnel. Alors surtout, ne bougez pas, on parle de la tournée Balavoine. Ma bataille avec le gagnant de The Voice, saison 11. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé. Reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
I am not a baby anymore. I am not as innocent as before. I sit in the mirror in my room and I can feel it stronger in my soul. But I'm not so ready for this world. Now I see things I didn't see before. I need an explanation. Tell me more.
I'm in.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute On Écoute la Télé. L'invité d'honneur de la semaine.
Allez, notre invité d'honneur aujourd'hui dans Chute On Écoute la Télé, vous l'avez vu dans The Voice, vous l'avez soutenu jusqu'à la fin puisqu'il a remporté l'édition 12 de The Voice du télécrochet de TF1. Aurélien Vivot, c'est notre invité aujourd'hui. Bonjour Aurélien.
Salut Alain, je suis content de te retrouver.
Moi aussi, je suis très content. Tu sais qu'on était là depuis tes débuts. Et là, je suis très heureux de t'avoir parce qu'on va parler de l'album, évidemment, La plus belle histoire du monde. On va parler de Balavoine, Ma bataille, grand spectacle qui va arriver début 2026. Ça, c'est une sacrée aventure aussi. Tu te sens bien ? T'es heureux aujourd'hui de voir tout ce qui t'arrive. Après, évidemment, les 500 cœurs aussi pour Queen. Franchement, ça n'arrête plus depuis 3 ans maintenant.
Bah écoute, je suis vraiment content parce que maintenant que j'ai découvert un peu ce milieu, tu vois, parce que j'étais pas du tout de ce milieu-là, bah j'ai vu plein de choses qui m'ont beaucoup plu, d'autres beaucoup moins, tu vois, et j'ai la chance que ça continue comme ça. J'ai la chance de faire des rencontres magnifiques, j'ai la chance d'avoir un public qui me lâche pas. Donc ouais, je me sens bien parce que j'arrive à en vivre et puis à m'épanouir comme je veux, donc c'est super quoi.
Tout en restant toi-même, en faisant tes propres choix, ceux qui te ressemblent, ceux pour lesquels tu es le plus en phase avec.
Ouais, c'est important, en fait, ça l'a toujours été, je l'ai toujours dit, moi, mon socle, c'est la famille, tu vois. Si je sens qu'il y a des choses qui vont pas aller en phase avec ça, je dois toujours m'aligner, tu vois, sur ces valeurs. Et c'est ce que je m'efforce de faire depuis presque 3 ans maintenant, et écoute, ça marche bien comme ça, donc je suis content. Et puis j'ai mes enfants, j'ai mes filles, que je veux toujours pouvoir regarder dans les yeux, quoi, tu vois. Donc ça marche pour l'instant, c'est bien.
C'est ça qui est chouette. La plus belle histoire du monde, c'est ce premier album qu'on attendait tous, que tu nous as livré. Alors comment s'est passée un peu cette construction d'album quand on sait aujourd'hui que la musique, c'est compliqué, c'est difficile, et sortir un album, ça prend du temps aujourd'hui malgré tout. En moins de 2 ans, t'as réussi à nous le sortir.
Alors il y a beaucoup de gens qui me disent que ça a été très très long, et c'est vrai que ça l'a été. Parce que déjà, je voulais absolument être présent à chaque fois qu'on écrivait une chanson, en sachant que je me suis retrouvé avec 40 maquettes et qu'on pouvait en garder que 10 au départ. J'ai réussi à en gratter 13, tu vois. Mais bon, ça a été long puisque justement, comme tu disais tout à l'heure, je faisais la tournée des 500 voix pour Queen. Après, il y a eu la tournée de The Voice. Il y a eu aussi ma tournée à moi, De l'ombre à la lumière, qui a été incroyable pour moi. Enfin, je me suis épanoui là parce que c'était mon premier spectacle. Donc, pendant que j'avais quelques moments tranquilles, je montais à Paris, rencontrais les auteurs-compositeurs parce qu'ils ont été nombreux à me faire l'honneur de collaborer avec moi. Et puis, il a fallu choisir après les chansons.
C'est dur, ça. Hein.
Ah, ça a été super dur. T'imagines, il y avait des chansons de Rick Allison, par exemple, que j'ai pas pu garder simplement. Elles étaient merveilleuses, les chansons. Elles sont toujours là, mais parce qu'il y avait pas j'arrivais pas à avoir la cohérence avec les autres chansons. Il a fallu se triturer la tête. Bon, après, il y en a certaines que j'ai pas pu garder sur l'album, mais que je fais quand même en concert. Ça, c'est quand même chouette aussi de pouvoir être libre comme ça. Puis voilà, puis c'est les rencontres, quoi. Tu rencontres des gens, mais merveilleux, quoi. Et puis qui sont passionnés, qui sont passionnants et qui ont envie de t'écouter et puis de faire des chansons avec toi qui te ressemblent le plus possible, quoi. Et ça, c'est merveilleux.
Les collaborations aussi, c'est important. Quels sont les artistes aujourd'hui qui ont collaboré avec toi sur cet album au niveau de l'écriture, justement? Est-ce que t'as été surpris? Est-ce que t'as été ému par peut-être certains artistes qui ont voulu t'écrire des textes?
Déjà, voilà, il y a eu la première rencontre qui s'était faite d'ailleurs avant la phase avec Universal où on me dit bon, on va essayer de travailler avec un tel. Moi, j'avais déjà rencontré François Velgrin et William Rousseau. Là, tous les deux, c'est un duo auteur-compositeur là qui sont au taquet et puis surtout qui sont adorables. J'avais adoré le travail de François sur la chanson de John Tears, Tout l'univers, elle s'appelle la chanson. Je m'étais dit, ce gars, il s'est connecté au chanteur. Et puis c'est lui qui m'a contacté. Alors du coup, c'est vrai qu'on s'est rencontrés. Et puis une bonne moitié de l'album, c'est des chansons qu'on a fait ensemble. D'ailleurs, qu'on a enregistré au studio Ferber, ça c'est aussi un truc de dingue quand même. Tout ce que j'ai fait avec eux, c'est des vrais instruments. Tu vois, c'est une vraie batterie, l'orgue, c'est un vrai, c'est un vieux machin là, incroyable quoi. Et après, il y a eu Nazim aussi, justement, qui donne le titre de l'album, La plus belle histoire du monde. Nazim, il a une plume assez particulière et c'est très fort quoi. Il met des mots simples mais très forts, tu vois. Et cette chanson, forcément, ça parlait des enfants, donc bon, ben c'est connecté direct. Et puis il y a eu cette rencontre avec Didier Barbelivien qui était particulière, avec la chanson qui clôture l'album, c'est Dernier blues pour Johnny. Celle-là, tu vois, je rencontre le gars, déjà tu te dis il écrit plus en fait. Il écrit un peu pour Julien Clerc, je crois, récemment, mais il a aimé mon parcours et puis ma personnalité, je pense.
quand on sait aujourd'hui le nombre de chanteurs qui ont chanté ces mots.
Ouais, c'est ça. Et puis c'est surtout quand il me dit qu'il était pote avec Johnny, il me montre des trucs, mais des photos, des trucs en noir et blanc. Je vois qu'ils étaient vraiment, vraiment amis, quoi.
Ouais, ça calme, quoi.
Ouais. Et puis là, il me dit, écoute, Aurélien, j'aimerais écrire une chanson pour mon pote et j'aimerais que ce soit toi qui la chante. Alors quand le mec, il te dit ça, oh purée, j'ai des frissons, rien que de te dire ça, quoi. C'est fabuleux, quoi. Tu vois, c'est fou, quoi.
Et ton premier ange gardien, quand même, ton coach?
Eh ben Zazie, super, ah ouais. Zazie. Alors Zazie, elle est adorable.
Là, coach même.
Ah ouais. Non, Zazie, elle est adorable, tu vois. On a gardé contact quand j'ai... Bon, après, je t'avoue, je l'embête pas trop parce que j'ai toujours peur d'en faire trop. Mais quand ben, j'ai envie de lui écrire pour... Tu sais, des fois, quand elle commence une tournée, j'envoie un petit message. Ou telle autre fois, j'ai fait une reprise sur les réseaux, là, la chanson qui clôturait son album, que j'aime beaucoup, tu vois. J'ai fait la reprise et j'ai envoyé. Et du coup, elle m'a raconté l'histoire de la chanson. Enfin, elle me répond toujours, quoi. Quand je lui écris, elle me répond toujours, tu vois.
C'est chouette d'avoir ce lien avec des gens comme ça. Si on devait découvrir un premier extrait, justement, de ton album, La plus belle histoire du monde, lequel t'as envie maintenant, Aurélien?
J'ai envie de te dire toutes, parce que chacune a son histoire. Mais là, la première qui me vient, c'est celle qui ouvre l'album, parce qu'elle s'appelle Gravé dans le marbre. Déjà, celle-là, en live, elle prend une tournure complètement... Enfin, je suis trop content, quoi, parce que les gens, ils chantent avec moi. À un moment donné, il y a des chœurs, ils répondent. C'est fort comme sensation. Et puis le message, surtout, c'est une chanson, en fait, c'est un parent qui parle à son enfant, tout simplement. J'adore le message, quoi. J'adore le message de cette chanson. Donc là, ben, je vous dirai la première chanson gravée dans le marbre. Qui est...
Eh ben, on l'écoute maintenant, Aurélien.
Allez, c'est parti.
C'est parti, on appuie sur le bouton, c'est parti. Aurélien Vivot, c'est notre invité aujourd'hui, La plus belle histoire du monde. Est en vente partout, chez tous les bons espaces culturels et en téléchargement légal sur toutes les bonnes plateformes, évidemment. On écoute tout de suite cette première extrait dans l'émission.
Je n'étais rien qu'un homme, et maintenant je suis père. Je t'ai donné la vie et tu m'as rendu la lumière. Si tu veux qu'on se parle, je t'ouvrirai mes bras. Je te promets pas d'être parfait, mais au moins je serai là. Et si le monde est bien plus beau quand il se reflète dans tes yeux, je veux le voir autant de fois qu'on se retrouvera tous les deux. Regarde, c'est gravé dans le marbre, une histoire, un message. C'est gravé dans le marbre, et même si l'on sait. À la peine, mais ça ne dure pas. Tu verras qu'un sourire peut donner la force d'un soldat. Il faut de la grandeur pour apprendre à s'aimer. On ne sera pas les seuls pour qui l'amour est un chantier. Et si le ciel est bien plus beau quand il se reflète dans tes yeux, je veux le voir autant de fois qu'on se retrouvera tous les deux. Regarde, c'est gravé dans le marbre, une histoire, un message. C'est gravé dans le marbre, et même si l'on sait. Thank you.
Voilà, gravé dans le marbre, c'est le premier extrait qu'on écoute d'un de l'album La plus belle histoire du monde. Aurélien Vivo, c'est notre invité gagnant de la saison 12 de The Voice. Ça a été également les 500 voix pour Queen. Et puis là, c'est un nouveau challenge qui t'attend, Aurélien, puisque fin 2025, début 2026, c'est Balawan, ma bataille. Et tu vas partager la scène avec Nour, qui est la gagnante de l'année d'avant.
Ouais. En fait, on va être 7 chanteurs, chanteuses à partager la scène pour, tu vois, il faut au moins ça pour essayer d'être à la hauteur de Daniel Balavoine, tu vois. Et puis, il y aura ces musiciens, enfin, certains de ces musiciens historiques qui vont nous accompagner. Et puis surtout, enfin, je tiens à le dire parce que c'est très important pour moi, c'est ces valeurs humaines, tu vois, qu'on partage. On s'est rencontrés un petit peu, on va bientôt commencer les répètes. On est tous déjà, comme une famille, c'est bizarre hein, de dire ça, mais c'est vrai. Et puis je sais que quand on va faire la tournée, on va se tirer vers le haut parce que ça va être intense. Quand tu vois la tournée, en fait, ça commence vraiment le 14 janvier et ça finit le 14 février. En fait, on va faire 26 ou 28 dates maintenant, je crois. C'est-à-dire 5 à 6 dates d'affilée, un jour de repos. Enfin, on va y aller, et ça va être super intense. Et je sais que ça va être merveilleux déjà parce que déjà il y a ces valeurs qu'on partage tous ensemble. Et même aussi ceux qui nous gèrent. Et puis le producteur, il y a aussi Léa Ivan qui s'occupe de nous, qui s'occupait de Louane à l'Eurovision par exemple. Enfin, c'est que des gens très compétents, mais en fait, si tu le sais pas et que tu parles avec eux, ils sont d'une humanité et d'une simplicité extraordinaire. Je suis ravi de ça.
Et le spectacle va être composé comment? C'est des reprises de Daniel Balavoine et que vous allez jouer avec notamment deux musiciens historiques de Daniel.
C'est deux musiciens historiques, voilà, et puis d'autres musiciens. Il y en a un, par exemple, son papa, il jouait aussi à l'époque. Et puis donc on va chanter ses plus gros tubes. Et puis il y a aussi des chansons qui sont un peu moins connues. Par exemple, moi je vais chanter entre autres Dieu que l'amour est triste, que je ne connaissais pas du tout et qui m'a mis une claque quand je l'ai entendu. Je suis tombé amoureux de cette chanson. Mais bon, après bien sûr, tous les tubes de Daniel Balavoine seront chantés. On va les faire. Et puis en plus, il y aura aussi son frère Guy Balavoine qui va nous accompagner, je crois, quasiment sur la totalité de la tournée, qui va chanter une chanson qu'il a écrite pour son frère après qu'il soit décédé. Il va y avoir des moments d'émotion, je pense, assez forts.
Quand on s'attaque à un monument comme ça, on a la trouille ou pas? Vraiment, Aurélien, là, à quelques semaines.
Alors, pour ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un qui stresse pas du tout. Non, mais c'est vrai que quand on m'a dit Aurélien, on fait la tournée pour rendre hommage à Balavoine, je me suis dit, oh là là, alors déjà, l'honneur absolu. Mais après, tu te dis, mais attends, est-ce que je vais réussir à être à la hauteur du bonhomme? Mais c'est fou, quoi. Déjà, c'est un chanteur qui avait une voix tellement particulière et très haute, en fait. Et quand tu le vois, comment il chante, il poussait pas. Il allait très haut en voix de plaine, il poussait pas. C'est juste un ovni, quoi. C'est déjà, vocalement, faut arriver à être à la hauteur. Et puis surtout, enfin, parce que moi je le vois comme ça. Pour moi, c'est même plus un chanteur, Daniel Balavoine, c'est plus que ça. C'est il représente énormément de choses. Il était proche des gens, il avait des idées, il avait pas peur de les dire, de les donner, de taper du poing. Enfin, c'est un exemple pour beaucoup de gens, quoi. Ben, c'était il y a 40 ans quand il est parti, donc il faut vraiment parler de ça, parler de lui, et de son héritage, quoi. Puis il y a quelque chose que je tiens à dire aussi qui est important. Il y a une partie des fonds qui seront donné pour une association qui s'appelle Cap Solidaire, en fait, qui défend les droits que défendait Daniel Balavoine. Le producteur est allé sur place pour être sûr que l'argent ira où il faut. Et ça, je trouve ça génial.
T'as confiance, Aurélien, justement, d'avoir peut-être ce truc en plus, toi aussi? Est-ce que t'as cette conscience-là? Parce que moi, j'ai vu pas mal de gens qui t'ont entendu chanter, même à la télé. Tu mets une claque à tout le monde, réellement. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, quand je t'entends parler justement de Balavoine, que t'as pas conscience forcément d'avoir ce truc en plus, toi, que n'ont pas forcément d'autres. De pouvoir monter très haut, de pouvoir aussi faire des choses, avoir des capacités, en tout cas, qui sont assez exceptionnelles.
J'ai envie de te dire, non, j'ai pas vraiment conscience. Enfin, j'ai pas envie de me le dire, si tu veux, parce que j'ai tellement peur d'être prétentieux ou de me sentir, tu vois, là où je dois pas aller, parce que non, je me sens pas comme ça dans ma tête, tu vois. Le plus important à chaque fois, c'est ce que je me dis, et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que je stresse comme un malade à chaque fois que je dois chanter. C'est surtout d'arriver à partager des choses avec les gens, que les gens arrivent à ressentir des choses, que ça leur fasse du bien, tu vois. Et si j'arrive à faire ça, bah, c'est que c'est bon, j'ai réussi. Après, le reste, eh ben, tant mieux, tu vois, quelque part, si je sais bien qu'il se passe des choses, mais je préfère pas y penser, tu vois. Quand les choses, elles viennent, je les prends, et quand il y a des choses à donner, je les donne du mieux que je peux, et puis c'est tout ce qui compte, tu vois. C'est vraiment, c'est ce que je me dis à chaque fois, et puis on verra où ça nous mène.
En tout cas, Balawan, ma bataille, va partir en tournée, donc en janvier, février, partout en France. On va vous donner évidemment toutes les dates d'ici quelques instants, près de chez vous. Et puis, si le succès est au rendez-vous, et c'est ce que ça a l'air déjà d'être, il y aura peut-être des prolongations en septembre prochain, 2026.
Ouais, une deuxième tournée, si ça fonctionne bien. Une deuxième tournée, donc, en septembre, où on passera par les salles où on n'a pas pu aller. Parce que c'est vrai qu'on a déjà des demandes, des gens qui nous disent « Pourquoi vous n'êtes pas à Biarritz ? Pourquoi vous n'êtes pas ici ? Pourquoi ?» Parce qu'on n'a pas pu avoir la salle, parce qu'il faut réserver les salles longtemps à l'avance. Et simplement, souvent, c'est pour ces raisons-là. Et donc, du coup, on s'arrangera en septembre pour aller là où on n'est pas allé.
On écoute un deuxième extrait de ton album, La plus belle histoire du monde.
Eh ben allez, c'est parti.
On écoute lequel ?
Eh ben j'ai envie de te dire le titre phare, La plus belle histoire du monde. Comme ça, il y a ce joli message. Encore une fois, tu vois, ça parle d'enfants. Je sais pas, j'ai envie de parler d'enfants aujourd'hui. Non, c'est une chanson pour les enfants, pareil. Et c'est celle dont je te parlais tout à l'heure, qui a été écrite par Nazim et qui m'a fait tellement de bien. Et puis en plus, c'est ma chanson Disney un peu, tu vois. Un peu ma chanson Toy Story un peu. C'est juste une guitare et puis on y va, on chante avec les chœurs et tout. Vous pouvez chanter les chœurs aussi.
On va les chanter les cœurs, on va les chanter. Mais on va te laisser surtout chanter La plus belle histoire du monde. On écoute, c'est l'extrait éponyme de l'album d'Aurélien Vivos, qui est notre invité, Balawan, ma bataille. Je vous donne toutes les dates juste après. Et on va te remercier infiniment, Aurélien, d'avoir passé ce moment en toute intimité ensemble.
Eh bien, merci encore de me permettre de parler de tout ça et puis d'être toujours présent pour les projets, pour moi aussi. Je vous dis merci du fond du cœur. Ça me fait plaisir, vraiment.
Eh bien, merci à toi, à très vite.
À bientôt, ciao ciao.
Si c'est ta couleur préférée, j'inventerai un ciel rose. Mille soleils pour éclairer le chemin où tes pas se posent. Des fenêtres de 100 mètres pour que tes dragons de compagnie aient un endroit où se mettre quand dehors ils sont sous la pluie. Oh mon trésor, partout le tonnerre gronde. Et certains enfants s'endorment sur des tapis de bombes. Oh mon trésor, si la tristesse t'inonde, j'en ferai des rivières d'or, la plus belle histoire du monde. Oh, 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 oh. De rien, pourtant tu seras princesse. Je me ferai magicien pour que tes larmes disparaissent. Bien sûr que tu grandiras, tu me diras papa je m'ennuie. Mais pour l'instant t'es dans mes bras, je te tiens comme on tient à la vie. Oh mon trésor, partout le tonnerre gronde. Et certains enfants s'endorment sur des tapis de bombes. Oh mon trésor, si la tristesse t'inonde, j'en ferai des rivières d'or, la plus belle histoire du monde. Oh, 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 oh. Ça finit, on choisit pas son livre, mais on choisit ce qu'on y écrit. Oh mon trésor, donne-moi juste une seconde pour te raconter encore la plus belle histoire du monde. Qui m'entoure,
Et la tournée Balawan Mabataille passera le 22 janvier au Dôme de Paris, le 23 janvier au Zénith de Nantes, le 27 janvier au Zénith de Toulouse, le 28 janvier au Zénith de Limoges, le 30 janvier à l'Arkéa du Futuroscope, le 31 janvier au Palio à Périgueux-Boulazac, le 3 février à l'Arkéa Arena de Bordeaux, le 8 février à l'Agora d'Agen et le 14 février au Vent d'Espace de Mouilleron-le-Captif.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé. On aura le plaisir de recevoir Clémence Lassalas pour la toute nouvelle série de TF1, Crime presque parfait. On recevra également toute l'équipe de Ness et Ryan, la toute nouvelle série événement de France 2. On parlera également d'Alex Hugo avec Mickaël Fitoussi qui viendra nous rejoindre. Notre coup de cœur ciné avec Kika et plein d'autres surprises.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de pots gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.